samedi 18 mai, ravi de vous retrouver pour notre voyage au cœur de 7 jours d'événements, grâce au reportage de la rédaction, bien sûr. Nous allons nous rendre aujourd'hui aux États-Unis, au Niger ou bien encore au Burkina Faso.
Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Cette semaine, notre invité est Gérard Courtois, éditorialiste, chroniqueur politique au journal Le Monde. Il nous propose une sélection de ses chroniques dans un livre intitulé « La fin d'un monde, chronique politique ». Avant de vous écouter, Gérard Courtois, revenons sur l'hommage national rendu mardi matin aux Invalides, aux deux soldats français, aux deux membres des forces spéciales, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, tués au Burkina Faso dans la nuit du 9 au 10 mai dernier, en libérant quatre otages, dont deux Français. Reportage de Valérie Gasse.
Une vie donnée n'est pas une vie perdue. Ce n'est pas un sacrifice, non. C'est le sens même de l'engagement. Et vous le saviez. Et avec vous. Je le savais.
Par ces mots, Emmanuel Macron a pris sa part de responsabilité dans l'opération qui a permis de libérer des otages, mais qui a coûté la vie à deux soldats d'exception, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Car c'est bien le chef des armées, celui qui décide et assume de prendre le risque de sacrifier des soldats, qui s'est exprimé pour leur rendre hommage. Mais un chef des armées tout en sobriété et en reconnaissance. Car dans ce discours, Emmanuel Macron a salué l'engagement, l'abnégation, la bravoure inouïe de soldats qui ont mis leur vie au service de la nation. Une cause plus grande qu'eux. Chacune des valeurs militaires a été saluée et au premier rang celle du devoir, le devoir de servir quitte à mourir. Cette valeur que partagent aux yeux du président tous les héros français aux côtés desquels vont reposer Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello dans la mémoire collective. À travers ces deux soldats, c'est à toute l'armée qu'Emmanuel Macron a dit merci au nom de la nation, car
une nation n'est libre et forte que d'avoir des héros dont elle doit se montrer digne, en s'élevant à leur hauteur et en restant soudée.
Des héros dont les noms ne s'effacent jamais, a dit le chef de l'État, avant que les cercueils sortent de la cour des Invalides au son du chant « Loin de chez nous ».
Une semaine d'actualité.
Merci de votre fidélité, une émission que vous pouvez retrouver bien sûr avec votre moteur de recherche préféré sur le site de la radio également ou sur l'application RFI Pure Radio. Bonjour Gérard Courtois.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro, je suis ravi de vous accueillir. Vous venez de publier La fin d'un monde, chronique politique, c'est une sélection de vos chroniques qui vont de 2007 à aujourd'hui, au début de 2019, livre publié chez Tempus, autrement dit chez Perrin, avec Le Monde. Vous voulez réagir sur cet hommage national pour commencer cette émission ?
Oui, volontiers. D'abord, une première chose, parce que avant l'hommage national, il y a eu l'épisode précédent qui a donné lieu à polémique, c'est-à-dire le retour à Villacoublay des deux otages libérés, deux otages français, et les interrogations ou les critiques sur la présence du chef de l'État pour les accueillir. Font l'argument des détracteurs de ce geste étant que au fond on saluait ou on accueillait deux irresponsables qui avaient provoqué la mort de deux soldats français.
Certains disaient Macron accueille deux touristes.
Voilà. Mmh. Moi je trouve cette polémique mais vraiment très typique de cette espèce de sport national qui consiste à trouver maintenant une polémique tous les jours.
Alimentée par les réseaux sociaux. Hein.
Oui, ah, bien sûr. Mais enfin, je veux dire, le chef de l'État, il est dans son rôle dans les deux moments. Il est dans son rôle à Villacoublay avec des messages, même s'il n'a pas pris la parole, avec des messages très clairs, messages aux Français, la France n'abandonne pas des ressortissants s'ils sont en danger, s'ils sont pris en otage, etc. Et messages tout aussi clairs aux ravisseurs potentiels, c'est la France ne cède pas. Elle ne verse plus de rançon, c'est au fond le... Et elle poursuivra les ravisseurs... autant qu'il lui est possible pour libérer les otages éventuels. Donc voilà, c'est des messages simples et des messages nécessaires, me semble-t-il. Et puis il y a eu l'hommage aux Invalides, où le chef de l'État est dans un registre qu'il affectionne.
Oui.
J'ai en tête une très longue interview que Emmanuel Macron avait donnée au Point à l'été 2017, très peu de temps après son élection, en août, je crois. Et où il avait notamment fait un très long dégagement sur le besoin d'héroïsme dans les sociétés contemporaines, où les récits collectifs ne fonctionnent plus, où les valeurs communes s'effritent, où le sens de l'histoire s'efface, etc. Et donc, il est dans un registre qui lui paraît important, qu'il maîtrise et qui lui paraît important. Et j'ajoute un mot sur quelque chose qui me frappe dans toutes ces cérémonies d'hommage qui se sont répétées pour le colonel Beltrame, etc., etc. C'est que le regard des Français sur l'armée, me semble-t-il, a beaucoup changé depuis quelques années. Et notamment depuis que la réalité de la guerre, qui avait disparu au fond du paysage mental des Français, pratiquement depuis la guerre d'Algérie en réalité, c'est-à-dire depuis un demi-siècle, la réalité de la guerre, que ce soit à travers l'intervention française au Mali à partir de 2013 et puis Barkhane en 2014, ou que ce soit, et surtout, à travers les attentats sur le sol français, Charlie, Bataclan, etc., je pense que d'un seul coup, les Français, enfin, la guerre qui paraissait une absurdité lointaine ou une nécessité lointaine devient une évidence immédiate. Et ça, je crois que ça a beaucoup, c'est beaucoup transparu, y compris la présence d'un public nombreux sur le chemin des Invalides mardi dernier.
Et toute génération confondue,
absolument.
D'ailleurs. 7 jours dans le monde.
Et nous allons commencer notre voyage sur la planète, autour de la planète, Gérard Courtois, avec les États-Unis. Les États-Unis qui ont rappelé mercredi leur personnel diplomatique jugé non essentiel en Irak en invoquant une menace imminente en lien direct avec l'Iran voisin. Mais Donald Trump a renouvelé ses appels au dialogue malgré l'escalade des tensions à Washington mercredi. Anne Corpé.
La décision d'évacuer tout le personnel jugé non indispensable de l'ambassade de Bagdad, mais aussi du consulat à Erbil, est un nouveau signe de l'escalade des tensions entre Washington et Téhéran, car c'est bien les milices soutenues par l'Iran qui, selon le département d'État, menacent la sécurité des Américains en Irak. Mardi, le Pentagone a fait savoir qu'il faisait passer ses troupes stationnées dans le pays en état d'alerte, et ce, même si l'aggravation des menaces évoquées a été contestée par les Irakiens, mais aussi par le porte-parole de la coalition internationale en Irak et en Syrie. Le dispositif de l'armée américaine a été renforcé dans le Golfe et les élus des deux bords au Congrès s'inquiètent de possibles velléités guerrières de l'administration. Ils demandent à être informés au plus vite par l'exécutif. Donald Trump a toujours fait part de ses réticences vis-à-vis des interventions armées à l'étranger, mais selon le Washington Post, il y a eu des réunions la semaine dernière à la Maison-Blanche sur l'Iran et la possibilité d'une action militaire a été envisagée. John Bolton, conseiller national à la sécurité, plaide avec insistance pour frapper Téhéran et beaucoup voient son influence derrière l'escalade qui se profile au Moyen-Orient.
Menace de guerre donc à suivre dans nos journaux. La guerre commerciale, cette fois entre les États-Unis et la Chine, est repartie de plus belle lundi avec l'annonce de représailles chinoises aux droits de douanes américains. Patricia Lecomte.
Les hostilités vont crescendo. Pékin vient d'annoncer une hausse des droits de douane sur 60 milliards de dollars de produits américains. Dès le 1er juin, ces biens seront taxés à hauteur de 25% maximum. Cette annonce vient en représailles à l'attaque américaine, alors que les négociations semblaient sur le point d'aboutir. Donald Trump a tapé du poing sur la table dimanche 5 mai. Mécontent du manque de rapidité des négociations, il avait annoncé une hausse des taxes de 25% sur 200 milliards de dollars de produits chinois. La mesure est entrée en vigueur vendredi dernier. Et la surenchère pourrait continuer, car la Maison-Blanche rappelle qu'il y a 325 milliards de produits chinois importés qui n'ont pas encore été surtaxés. Face à cette escalade, le milieu des affaires s'interroge sur les prochaines sanctions. Dans ce bras de fer où la Chine importe moins de produits américains que les Américains de produits chinois, Pékin ne pourra pas poursuivre avec les mêmes armes. La Chine pourrait alors décider, par exemple, de suspendre ses achats de Boeing ou encore de produits agricoles, des pans importants de l'activité économique économique américaine, de quoi inquiéter les marchés.
Suite à une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie de Gérard Courtois. Alors j'ajoute que de mystérieux actes de sabotage présumés contre 4 navires au large des Émirats Arabes Unis ont provoqué une montée des tensions dans le Golfe et que des attaques de drones revendiquées par des rebelles yéménites ont provoqué la fermeture d'un oléoduc majeur mardi en Arabie Saoudite. Cette fois, montée des tensions dans cette région du monde, Gérard Courtois.
Oui, montée des tensions dans une région qui n'en manque pas déjà. mais surtout, ce que je trouve singulier et inquiétant, c'est cette espèce de montée en parallèle des bras de fer et de l'escalade à la fois commerciale avec économique et technologique avec la Chine politique et militaire sur fond de sanctions économiques avec l'Iran. Il y a des guerres qui démarrent pour moins que
moins
ça.
Il y a
des escalades verbales qui dérapent. Il y a des gens qui ont le sentiment de perdre la face et qui perdent leurs nerfs, etc. Donc on est dans un jeu très dangereux, en tout cas dans le Golfe. D'autant plus dangereux que Donald Trump fait du poker comme d'habitude, mais à côté de lui, ça a été mentionné dans le reportage, John Bolton et Mike Pompeo, qui sont des faucons et qui ont adossé qui plus est à Israël, ouais, et l'Arabie Saoudite, ennemi direct de l'Iran, et qui sont décidés à, semble-t-il, qui le disent et qui œuvrent pour ça à changer ou à conduire, à permettre un changement de système politique en Iran, 40 ans après l'installation du régime des Mollahs. Et on a le même genre de mécanique dangereuse avec la Chine, puisqu'au fond, l'objectif, la logique de l'offensive commerciale américaine, c'est d'imposer aux Chinois un changement de modèle économique. Et dans les deux cas, c'est une abdication politique en Iran, économique et donc politique en Chine. Donc ça me paraît quand même des engrenages imprudents et dangereux.
Gérard Courtois, revenons en France pour évoquer ce livre. Oui. Il s'agit donc d'un recueil de chroniques politiques, oui, du Monde, votre journal. La première date de 2007, du début de 2007. Et en les lisant, ces chroniques, je me suis vraiment dit que le temps passait vite. Et que cette époque paraissait très lointaine, 2007, l'élection de Nicolas Sarkozy.
Moi, il se trouve que pour faire la sélection, puisqu'il y en avait à peu près 600 des chroniques, et l'éditeur m'avait dit, écoutez, faites-moi une sélection de 100, puis on verra. Et donc j'ai gardé les chroniques exclusivement, si je puis dire, politiques au sens étroit du terme, pour au fond faire le film politique de ces 10-12 dernières années. Et en relisant, je me suis dit deux choses. La même chose que vous.
Ah, c'est ce que vous dites au début du livre, ça paraît une éternité.
Qu'est-ce que c'est loin? Ouais. Qu'est-ce que c'est loin? L'arrivée de Nicolas Sarkozy en 2007, ça paraît vraiment... Depuis, il y a eu une crise économique mondiale, l'échec de Nicolas Sarkozy en 2012, l'arrivée de François Hollande, l'échec et l'abdication ou renoncement de François Hollande, l'élection invraisemblable, c'est 6 mois avant d'Emmanuel Macron. Enfin, bon, donc il y a eu effectivement une espèce de bousculement et basculement du temps politique. Et en même temps, comme on dit de nos jours, oui, en même temps, ce qui m'a absolument sidéré, c'est de retrouver depuis 12 ans exactement les documentés de la même manière avec les enquêtes de Sciences Po et toutes sortes d'outils de ce genre. Le constat d'une crise de défiance politique des gouvernés à l'égard des gouvernants qui n'a pas bougé d'un pouce et qui s'est évidemment en 10-12 ans aggravée, enracinée, enquistée et qui débouche sur, notamment, à la fois sur l'élection de 2017, le grand dégagement de tous les partis anciens, et sur sa réplique en quelque sorte qu'a été le mouvement des Gilets jaunes.
Une semaine d'actualité.
Parlons maintenant de sujets particulièrement révélateurs de notre époque. Une vingtaine de pays et les géants d'Internet ont en effet rallié mercredi l'appel de Christchurch, s'engageant à lutter contre les contenus en ligne terroristes ou extrémistes violents, un texte que les États-Unis n'ont pas signé d'ailleurs. Christchurch, c'est le nom de la ville du sud de la Nouvelle-Zélande où, le 15 mai dernier, un terroriste australien avait tué 51 fidèles, Vincent Souriau.
Le tueur de Christchurch s'est filmé en train de massacrer 51 personnes et il a diffusé cette vidéo en direct sur Facebook. Si Jacinda Ardern lance cet appel avec Emmanuel Macron, c'est pour, dit-elle, éviter que les réseaux sociaux soient pervertis par le terrorisme.
Au départ, il n'y avait que quelques centaines de spectateurs qui regardaient cette vidéo en temps réel. Mais ensuite, elle a été partagée et s'est répandue si vite que chaque seconde, pendant 24 heures, YouTube a enregistré une nouvelle mise en ligne de ces images.
La priorité, c'est la rapidité du retrait. Plus les plateformes Internet agissent vite pour supprimer les contenus à caractère terroriste, moins ils auront d'impact. Mais Emmanuel Macron veut aller plus loin.
L'engagement pris par les entreprises aujourd'hui qui étaient là autour de la table, c'est un retrait immédiat et permanent. L'engagement pris par Facebook, c'est de mieux réguler le live streaming et de sortir de cette facilité des publics sensibles. Ensuite, il y a à définir les modes de coopération que ces plateformes doivent avoir avec les gouvernements. S'assurer que les plateformes coopèrent très rapidement, retirent ces contenus et nous permettent d'identifier ceux qui les diffusent.
Les discussions continuent. Pour l'instant, l'appel de Christchurch n'a pas de valeur juridique. Emmanuel Macron et Jacinda Ardern promettent un suivi technique au mois de juin et une coopération renforcée sur ce sujet au terme du G7, prévu au mois d'août à Biarritz, dans le sud de la France.
Gérard Courtois, autre sujet révélateur des changement de notre époque et un nouveau revers judiciaire majeur pour Monsanto, absorbé l'an dernier par l'allemand Bayer, on le sait. Un jury américain l'a en effet condamné lundi à verser 2 milliards de dollars à un couple de septuagénaires atteints d'un cancer attribué à son désherbant au glyphosate Roundup à San Francisco. Éric de Salve.
C'est la troisième fois d'affilée qu'un tribunal californien juge le Roundup responsable d'un cancer. Les deux premières condamnations de Monsanto à San Francisco étaient déjà records, 289 millions de dollars en août pour un jardinier en phase terminale, 80 millions en mars pour un retraité souffrant de la même maladie. Cette fois, le verdict d'Oakland est encore plus vertigineux. Le groupe pharmaceutique allemand Bayer, propriétaire de Monsanto, doit verser la somme de 2,55 milliards de dollars à un couple de septuagénaires, et ce en réparation de leur lymphome attribué au célèbre herbicide qu'ils ont répandu pendant 35 ans dans leur propriété de San Francisco. Bayer a fait appel des deux premières décisions, mais le groupe allemand n'en est sans doute qu'au début de ses déboires judiciaires, car le nombre de plaintes contre le Roundup ne cesse de s'accumuler, déjà 13 400 procédures à travers tous les États-Unis. Pendant ce temps, l'herbicide à base de glyphosate est toujours en vente libre sans mention de sa dangerosité. Or, dans les trois décisions, la justice américaine estime que ces risques cancérigènes étaient connus de Monsanto, mais que la firme du Missouri les a savamment dissimulés. Son rachat l'année dernière vire donc à la catastrophe pour la direction de Bayer, de plus en plus contestée par ses actionnaires et dont l'action a perdu 30% de sa valeur après ses deux premières condamnations.
Gérard Courtois, là, il s'agit selon moi de deux sujets de l'époque. Il est rare qu'on entende un président de la République s'intéresser d'aussi près à la vie et à la technique d'Internet.
Oui, alors c'est pas une surprise de la part d'Emmanuel Macron. Il l'a démontré pendant sa campagne et depuis, se voulant au fond le grand réconciliateur ou à la pointe du combat, c'est peut-être un grand mot, mais enfin de la démarche, ouais, engagée en France, en Europe, par la Commission européenne de manière très active, au niveau du G7, on l'a dit, et plus largement au niveau mondial, l'effort engagé pour essayer de réconcilier les réseaux sociaux et leur effervescence et leur ouverture à tout vent, y compris les plus mauvais, et le bien commun, et la protection d'un certain nombre de valeurs. Donc, voilà, on est dans ce mouvement-là, avec des réticences non négligeables, soit des anglo-saxons, pour des raisons au fond philosophiques, des engagements qui, pour l'instant, sont progressif, prudent, ouais, des entreprises et des grands réseaux, la difficulté qui est liée aux plus petits réseaux qui n'ont pas les moyens ni techniques ni financiers des Google, Facebook et autres. Donc voilà, c'est une démarche nécessaire, c'est une démarche utile, c'est une démarche qui reste pour l'instant vraiment encore non pas embryonnaire, mais qui s'esquisse.
Disons. Mais pour l'observateur de la vie politique que vous êtes, Gérard Courtois, il est significatif de voir que le patron de Facebook est reçu comme un chef d'État à l'Élysée, par exemple.
Bah, il a la puissance d'un État, tout simplement, ou même d'un État important. Et toutes ces énormes entreprises du numérique ont des budgets et des recettes qui dépassent très largement celles de très nombreux États, y compris européens.
La condamnation de Bayer, enfin de Monsanto, au moment où en France, un rapport parlementaire a été publié jeudi sur l'évaluation des risques sanitaires par les agences de santé françaises et internationales, et pas simplement d'ailleurs sur le glyphosate.
Oui, mais on est dans une polémique qui va durer des années. Voilà. Je pense que les responsables de Bayer doivent se mordre les doigts quand même d'avoir racheté Monsanto, parce que ça commence à leur coûter très cher, et ça va continuer, on l'a dit, hein, 13 000 plaintes rien qu'aux États-Unis, ça risque de faire très très mal. Mais il y a en même temps cette espèce de gigantesque, moi je sais pas comment qualifier ça autrement que de cynisme, d'une entreprise, Monsanto, dont l'épisode récent, avant le rapport parlementaire, l'épisode récent du fichage et de l'évaluation
des journalistes,
des responsables scientifiques, politiques, etc., témoigne quand même d'une relation assez singulière avec le bien commun, on va dire.
Alors revenons à la vie politique française et à cette époque qui paraît révolue, très lointaine, 2007 jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que vos chroniques couvrent cette période. Cette accélération d'évidence est due aussi au rythme du quinquennat, qui a accéléré la vie politique en France.
Au rythme du quinquennat et au changement de modèle de communication, je veux dire, à la fois les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu, ont totalement chamboulé le temps politique. On est passé d'un temps politique qui était institutionnellement dans le, si je puis dire, la majesté du septennat gaulien, à un temps politique beaucoup plus nerveux, beaucoup plus rapide. Et il y a le quinquennat, mais pour moi, au fond, la chose la plus déterminante a été l'inversion du calendrier en 2007, et donc le fait qu'on a, ça c'était la décision de Lionel Jospin, qu'on a mis l'élection présidentielle avant la législative, et que du coup, vraiment, ça a dévitalisé l'élection législative, et à travers ça, dévitalisé, me semble-t-il, la fonction de Premier ministre. En tout cas, il y a toujours un Premier ministre. Pour moi, il y a eu ce mot très qui a été vécu comme très mal par l'intéressé, à savoir François Fillon, quand il s'est fait traiter de collaborateur par Nicolas Sarkozy en 2007. Mais c'était juste. Le Premier ministre est devenu un collaborateur. Et il a perdu sa fonction soit de fusible, soit de paratonnerre qu'il avait jusque-là. Du coup, c'est le président qui capte toute la lumière et qui capte toute la colère. Et on l'a vu récemment.
Une semaine d'actualité.
Alors Gérard Courtois, revenons maintenant sur quelques images sonores en France, avec d'abord l'ouverture cette semaine de la campagne officielle pour les élections européennes. C'est dimanche prochain, le vote, dans 8 jours. Marine de la Moissonnière.
Une enfilade de panneaux devant les mairies et les écoles pour exposer les affiches des 34 listes, c'est le premier signe visible par tous les Français que la campagne est entrée dans sa dernière ligne droite. Puis dans leur boîte aux lettres, les électeurs recevront les professions de foi de certains partis, pas de tous, car c'est à eux de payer l'impression et l'envoi. Les petites formations n'en ont pas les moyens. En revanche, à la télévision et à la radio publique, à partir de ce mardi, vous verrez et entendrez bien 34 spots, car ils sont financés par l'État. Certains partis ont dévoilé leur clip de campagne dès hier.
Le monde peut être beau, la vie peut être douce. Le 26 mai, votons pour la liste de la France insoumise avec Manon Aubry.
Jusqu'au vendredi 24 au soir, les débats télévisés vont aussi se multiplier. Impossible de faire venir les 34 têtes de liste sur un plateau, mais chaque intervention sera comptabilisée dans le temps d'antenne globale du candidat. Un temps de parole fixé par le CSA et qui diffère sensiblement entre les listes, d'environ 3 minutes 30 pour les petits mouvements jusqu'à plus de 55 minutes pour LREM.
N'attendez pas une meilleure Europe. Changez-la maintenant. Le 26 mai, votez pour une renaissance européenne.
Rendez-vous donc le 26 mai prochain, c'est dans quelques jours. Les instituts de sondage prévoient, semble-t-il, une forte abstention ce jour-là, chez les jeunes notamment. Alors comment faire pour les convaincre? La défense de l'environnement peut-elle les conduire à déposer un bulletin de vote dans les urnes? Écoutez ce reportage de Ninoc Louis à l'université de Tolbiac à Paris.
À l'université de Tolbiac, il flotte déjà un air de vacances. Les étudiants passent leur dernier partiel. Le nez dans ses révisions, Victoria n'a pas encore fait son choix pour les élections européennes, mais elle sait déjà ce qu'elle en attend.
Je veux qu'il y ait de l'argent qui est investi, mais pour faire fonctionner un bon écosystème et pas une bonne économie. Je veux qu'on arrête le plastique, et on peut arrêter le plastique. Il faut créer un téléphone biodégradable européen.
Chez les étudiants qui comptent voter, l'écologie est le sujet déterminant pour choisir le bulletin qu'ils glisseront dans l'urne. Loan et Mathilde ont déjà fait leur choix.
On pense voter écologie. À l'échelle européenne, on pense que c'est intéressant parce que je pense que c'est à l'échelle de l'Europe qu'on peut faire clairement quelque chose.
Mal renseignés, pas intéressés ou découragés par un sujet qu'ils estiment trop complexe, 8 jeunes sur 10 n'iront pas voter le 26 mai. Hassan se sent concerné par la crise climatique.
Ça a des conséquences sur notre avenir un peu. Mais du coup, ouais, on est un peu conscient.
Mais il n'est pas sûr de voter le 26 mai.
Ni oui ni non, je sais pas.
Et Loan a du mal à comprendre son ami.
Les scientifiques n'arrêtent pas de démontrer que ça va mal et que d'ici 20 ans, il y aura des ressources qui vont manquer, qu'il y a des pays qui vont être en crise parce que le niveau des mers augmente et tout. Que les jeunes votent pas, c'est un gros problème, je pense, aujourd'hui.
Et cet engouement pour les questions climatiques n'a pas échappé aux candidats. Chacune des 34 listes propose des mesures écologiques. Les étudiants de Tolbiac ont donc l'embarras du choix.
Et de l'Europe, on va reparler avec vous dans un instant, Gérard Courtois, mais parlons d'autre chose. Plus de 13 millions d'euros dissimulés au fisc de somptueuses villas au Maroc et dans les Caraïbes, des fonds occultes transitant par la Suisse et Singapour, notamment. Le procès des époux Balkany, élus locaux de la banlieue parisienne, s'est ouvert lundi à Paris, procès d'abord du délit de fraude, et le procureur s'est montré très sévère dans son réquisitoire jeudi. Le seul regret de Balkany, c'est de s'être fait prendre, a-t-il lancé Franck Alexandre.
Parfois, la mise à l'écart d'un individu est nécessaire au vivre ensemble, martèle le procureur Arnaud de la Guiche dans son réquisitoire aussi court que sévère. Aux yeux du représentant du parquet, ces 4 ans de prison ferme assortis d'un mandat de dépôt s'imposent pour établir l'ordre social. C'est une mesure, dit-il encore, de dissuasion à l'encontre d'un homme politique qui n'a qu'un seul regret, celui d'avoir été pris. Patrick Balkany, le visage écarlate, en caisse.
Vous avez entendu le procureur. Il voudrait tout prendre, y compris la maison de nos enfants dont nous avons fait donation il y a plus de 20 ans. C'était pas indécent de dire que nous avons commencé la politique, nous étions très aisés. Aujourd'hui, il n'y a plus rien.
Balkany, c'est l'homme à abattre, réagit brutalement son avocat au point de l'envoyer en prison pour réjouir l'opinion publique. Ses réquisitions, ajoute Éric Dupond-Moretti, c'est le populisme dans son expression judiciaire, une justice dénaturée rendue au montant du mur de l'exemple, et l'avocat de rappeler qu'en France, il n'y a pas si longtemps, frauder le fisc était comparé à un sport national. Franck Alexandre, Palais de Justice, RFI.
Rendez-vous le 13 septembre pour le jugement sur cette affaire, sur la fraude donc, mais le procès Balkany continue sur le volet blanchiment et corruption. Cette fois, suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de notre confrère Gérard Courtois, éditorialiste, chroniqueur politique au journal Le Monde. Alors ces sujets sont presque faits pour vous, Gérard Courtois. On va commencer avec Balkany. Ça vous inspire un commentaire? Est-ce que c'est la fin d'un monde aussi en quelque sorte, pour reprendre le titre de vos chroniques?
Hélas non, apparemment. On verra bien ce que le jugement dira le 13 septembre sur cette partie du procès qui est intenté à Balkany et sur la deuxième partie à partir de la semaine prochaine. On verra. Mais il y a quelque chose de enfin, je ne sais pas comment qualifier ça, un mélange d'indécence, de cynisme, d'élus politiques qui sont en but avec la justice depuis des années. Dont tout le talent, si l'on peut dire, consiste précisément à esquiver les rigueurs de la justice. Mais moi, je suis profondément choqué par ces élus, et il n'est pas le seul. Alors, faut pas tout mélanger. Toutes les affaires ne se ressemblent pas. Qui ne comprennent pas que dans l'immense défiance des Français à l'égard des responsables politiques, il y a évidemment une profonde déception sur l'efficacité de l'action politique par rapport à des grands sujets, le chômage, le pouvoir d'achat, demain, le réchauffement climatique, etc. Il y a la question de l'efficacité ou de l'inefficacité de l'action politique. Mais il y a aussi, et me semble-t-il depuis tout autant depuis 25 ans, la question de l'exemplarité des responsables politiques. Vous connaissez comme moi cette statistique terrible de l'enquête de Sciences Po annuelle sur la confiance en politique. 80% des Français, ou même un peu plus, considèrent que les élus, que les responsables politiques sont corrompus, ce qui est inexact. Simplement,
c'est le ressenti. En fait.
C'est le ressenti, mais le ressenti, il découle de quoi ? D'affaires comme l'affaire Balkany, les affaires Balkany, mais aussi, et il faut pas l'oublier, du fait que les principaux responsables politiques du moment ou des années immédiatement passées, antérieures, ont maille à partir avec la justice. Nicolas Sarkozy, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, François Bayrou, et j'en oublie. Donc, les Français, ils voient ça, ils disent, mais c'est quoi ?
C'est tous pourris.
C'est
le tous pour.
Mais bien sûr, ouais. Bien sûr.
Alors justement, à propos de Nicolas Sarkozy, on a appris hier que le Conseil constitutionnel avait refusé son recours et donc il sera donc en toute logique jugé dans l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy, qui occupe une grande part de votre livre, de vos chroniques, en tout cas dans la période qui nous intéresse. Nicolas Sarkozy, dont vous disiez en 2008 qu'il était une énigme.
Oui, enfin une énigme. Il l'était peut-être en 2008, il l'est moins aujourd'hui.
Un peu moins, oui.
Bah, écoutez, c'est... Comme on dit, il y a une justice. Et elle avance, elle enquête, et elle finira par passer. Ce qu'elle dira, on le verra, mais elle finira par passer, ce qui est logique. Et il y a une chose qui, en tout cas, je parle de la campagne de 2012, est absolument incontestée et incontestable, c'est que le plafond des dépenses de campagne du candidat Sarkozy a été totalement explosé. Or, enfin, et quand je parlais de la réaction, du caractère insupportable de ces affaires financières, politiques ou financières aux yeux des Français, c'est que ces gens sont financés, et notamment les campagnes électorales, présidentielles et autres, par de l'argent public, par l'argent des Français. Le financement des partis, du fonctionnement des partis politiques et des campagnes est financé par l'argent public. Donc, les Français sont en droit de se dire, bon, ça n'est plus supportable.
Et il y a l'Europe aussi, hein, les élections dans 8 jours maintenant, un peu plus de 8 jours. Vous pensez, comme beaucoup, qu'il y aura une abstention quasiment historique à ce scrutin ?
Ouais, d'abord, elle n'est pas si historique que ça. Je veux dire, ça fait 3 élections européennes qu'on est sur un taux d'abstention de 56, 57, 58%.
C'est 57 en 2014, voilà. Un peu plus de 57% en 2014.
Bon, première chose. Deuxièmement, on est dans un mouvement général de déclin de la participation électorale en France. Ça vaut pour toutes les élections, à l'exception de la présidentielle, mais toutes les autres. Je veux dire, dernière législative, 50%, plus de 50% d'abstention. Au régional, au départemental, 40%, même au municipal, qu'on dit les élections les plus de proximité, les plus simples à appréhender.
Les mieux appréciés, les plus appréciés, semble-t-il, des électeurs jusqu'ici, en tout cas.
On est, je veux dire, en gros, on a une augmentation de 10 points d'abstention depuis 10 ans et de 20 points depuis 20 ans. Bon, exception faite de la présidentielle. Donc, les européennes n'y échappent pas. Est-ce que ça va se vérifier ? Pour l'essentiel, probablement, parce qu'on est à 8 jours du scrutin et on est toujours sur des estimations de participation autour de 40%, 42%. Mais moi, je suis prudent. Pourquoi ? Parce que les élections antérieures, que ce soit les primaires de la droite ou de la gauche en 2016-2017, ou l'élection présidentielle de 2017, ont montré que les Français se déterminent de plus en plus tard, dans les derniers jours, les dernières semaines, et même dans les derniers jours ou les dernières heures. Donc ça peut bouger. Et la deuxième chose qui me rend prudent, et que la présidentielle a bien démontré, c'est que les débats télévisés peuvent avoir un rôle, non pas sur le fond du débat, mais sur la capacité de tel ou tel candidat à comment dire, attraper la lumière, attraper la lumière dans un débat.
Ou au contraire sombrer.
Exactement. Ou au contraire avoir sortir de la lumière. On l'a vu par exemple avec Alain Juppé et François Fillon. On l'a vu ensuite avec par exemple Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle.
Ou Marine Le Pen dans son débat.
Ça c'est encore autre. Mais voilà, donc on va avoir la semaine prochaine deux des grands débats télévisés sur France 2 et BFM, un autre radio sur, si j'ai bonne mémoire, France Info avec Terra Nova, je crois, la fondation Terra Nova, le think tank. Ça fait trois occasions en deux jours d'entendre dans la confrontation les principaux candidats. Alors je mets de côté les polémiques sur qui est invité, qui n'y est pas, mais on peut avoir des surprises. Bon, ça ne fera pas bouger fondamentalement les lignes, me semble-t-il. Mais comme on est quand même beaucoup dans la marge d'erreur, si je puis dire, ça peut avoir un rôle.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, continuez bien sûr à nous écrire, aussi bien à cette adresse que sur les réseaux sociaux. Je dis bonjour aujourd'hui à Stanislas à Baraka en République démocratique du Congo, à Innocent à Goma, un salut à Hassan à Montpellier et Mathilde à Paris, bonjour à Ahmed à Dakar, à Kofi à Lomé, bonjour à Josué à Bamako et à Alpha à Conakry.
Une semaine d'actualité.
Partons pour l'Afrique, Gérard Courtois, pour le Niger précisément, où près de 30 militaires de l'armée nationale ont été tués mardi soir dans une embuscade près de la frontière avec le Mali, dans la localité de Balé-Berry, correspondance de Moussa Kaka.
Ce sont des hommes de la 112e compagnie spéciale d'intervention basée à Walam et leur colonne d'au moins 8 véhicules qui sont tombés dans une embuscade tendue par des terroristes à 45 km au nord-ouest du village de Mangaizé, non loin de Tongo-Tongo et de la frontière malienne. Les 52 soldats partis à la poursuite des djihadistes qui ont tenté d'attaquer la prison de Koutoukalé patrouillaient près du village de Balé-Berry quand un de leurs véhicules a sauté sur une mine. La violente explosion et les tirs nourris de l'ennemi n'ont laissé aucune chance aux soldats. Dans le feu de l'action, trois avions de reconnaissance USR, un Français, un Nigérien et celui des Américains qui est armé, ont survolé à plusieurs reprises la zone de combat. Ils sont rentrés sur leur base à Niamey sans avoir vu des mouvements djihadistes au sol. Selon plusieurs sources, les djihadistes n'ont pas eu le temps de franchir la frontière malienne. Des complicités locales les auraient cachés après leur forfait. Malgré les conditions hostiles et les risques de tomber dans d'autres embuscades, les premiers renforts terrestres sont arrivés sur le site à la tombée de la nuit. Les recherches engagées ont permis de retrouver trois véhicules appartenant aux soldats nigériens. Un seul véhicule manque à l'appel, celui de l'officier chef de la mission.
Cette attaque a eu lieu dans une zone sensible, c'est le moins que l'on puisse dire, une zone transfrontalière où les djihadistes sont très présents. Anthony Fouchard.
Dans cette région aux confins du Mali et du Niger, le mot frontière n'est qu'un concept. Elle n'est pas à délimiter et surtout les groupes armés et les terroristes peuvent passer d'un côté à l'autre sans aucun problème. C'est néanmoins la zone d'influence du groupe État islamique au Grand Sahara, le IGS. Il maîtrise parfaitement ce terrain, très vaste, souvent boisé, de la végétation qui permet de facilement se cacher et de mener des embuscades. Mais il n'y a pas que les hommes du terroriste Abu Walid al-Sahrawi qui sont actifs dans cette zone. Il y a aussi ceux du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, très présent au Mali, qui y mène aussi des opérations. Il arrive d'ailleurs à ces deux entités djihadistes de collaborer. Ensemble, ils se prêtent des hommes et du matériel pour mener des attaques d'envergure. On se souvient de celles conduites contre des soldats américains et nigériens dans la même zone à Tongo-Tongo en octobre 2017. Près d'une centaine de combattants avaient alors pris en étau les militaires nigériens et leurs alliés. À l'époque, il avait fallu l'intervention d'avions de chasse français pour mettre fin au combat.
J'ajoute que 12 civils peuls ont été tués dans la région de Ségou au Mali ces derniers jours. Une accusée principale, une milice Dogon. Il y a un auditeur qui s'appelle Jonas qui nous écoute à Lubumbashi, Gérard Courtois, qui se demande et qui pose la question suivante. J'aimerais savoir pourquoi les terroristes frappent les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Burkina, le Niger, le Mali et tant d'autres. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Franchement, je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question, Gérard Courtois, mais ce qui est certain, c'est qu'on revient un petit peu à ce qu'on disait au début de l'émission. L'armée française est au cœur de ces attaques djihadistes.
Et avec un bilan qui n'incite pas à l'optimisme, on va dire, poliment et diplomatiquement. Oui. La France est intervenue, on s'en souvient, dès janvier 2013, dans le nord du Mali.
Pour repousser une attaque
qui venait du nord du Mali. Ensuite, a mis en place la force Barkhane pour tenter de sécuriser toute cette zone, avec l'appui de l'ONU, l'appui du G5 Sahel, etc.
Des Américains aussi.
Des Américains. Mmh. Le résultat, on est maintenant 5 ans plus tard. Il y a 5 ans, la question, c'était le Nord-Mali. Et puis ensuite c'est le milieu du Mali et puis c'est le sud Mali, et on voit bien que les attaques récentes, que ce soit les ravisseurs des deux Français, c'est frontière Burkina Faso, l'attentat récent d'hier avant-hier,
Niger.
C'est au Niger, mais contre la frontière. Donc de fait, la politique de containment, comme on disait autrefois, pour contenir cette pression et cette dynamique djihadiste, pour l'instant, ne fonctionne pas.
Et nous parlions de l'Europe il y a quelques minutes, Gérard Courtois, on se demande ce que fait l'Europe, ou plutôt pourquoi l'Europe n'est pas plus présente côté des Français.
Elle a, en quelque sorte, elle considère que c'est à la France de s'en occuper, puisqu'elle a, ça fait partie de son aire d'influence historique, on va dire.
Ouais. Alors que l'armée française est dans l'état que l'on sait. Les militaires le disent suffisamment depuis des années.
Elle est dans l'état que l'on sait, et en même temps, elle reste une des deux armées européennes performantes avec la britannique.
Ouais. Alors partons maintenant pour le Burkina Faso, justement, et revenons cette fois sur l'assassinat de 6 fidèles catholiques à Dablo, dans le centre-nord du pays, correspondant cette fois de Yahya Boudani.
Dernier coup de pelle avant les dernières prières, les habitants de Dablo et de Kaya n'ont pas marchandé leur présence à l'inhumation des 6 fidèles catholiques abattus dimanche dernier. Aimé Ouedraogo, lui, a fait le voyage depuis Ouagadougou.
Ce drame est celui de l'horreur, perpétré par des non-croyants. Ils veulent diviser les chrétiens et les musulmans principalement.
L'église catholique était fortement représentée. Plusieurs évêques, dont le président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, ont apporté leur soutien aux fidèles chrétiens de Dablo et les ont exhortés à rester unis et forts.
Nous demandons au Seigneur de les prendre avec lui, mais de nous donner un esprit de paix, de solidarité et de concorde au niveau de notre pays. C'est ce chemin-là qui nous conduira tous au bonheur.
Au nom du président du Faso, Siméon Savadogo, le ministre de l'administration du territoire a rassuré les populations que tout est mis en œuvre pour la préservation de la cohésion nationale.
En cette circonstance douloureuse, le président nous dit de garder espoir, de garder la solidarité, l'entente. C'est simplement par cela que nous pourrons vaincre ce mal-là.
Les populations de Dablo, quant à elles, ont exigé un renforcement du dispositif sécuritaire pour qu'une telle situation ne survienne encore dans le pays.
Gérard Courtois, terminons pour cette semaine notre voyage pour reparler de la face sombre de Facebook, qui a annoncé jeudi avoir fermé des comptes qui propageaient de fausses informations sur l'Afrique. À San Francisco, retrouvons Eric Desalves.
Sur son site internet, le groupe Archimède, basé à Tel Aviv, vante ses méthodes innovantes pour faire gagner des élections, en particulier en Afrique. Mais selon les services de sécurité de Facebook, derrière cette vitrine se cache en réalité une vaste usine à trolls dont le chiffre d'affaires repose sur des fake news politiques diffusées à la commande pour perturber des élections à des fins commerciales. Difficile d'évaluer son impact, mais au total, sous de fausses identités. Les employés d'Archimède ont créé, selon Facebook, des centaines de fausses pages suivies par 2,8 millions d'abonnés. Entre 2012 et 2019, cette société israélienne est allée jusqu'à dépenser 812 000 $ de fausses publicités sur le réseau social, c'est 8 fois plus que l'argent investi selon les autorités américaines par la fameuse entité russe proche du Kremlin pour influencer la présidentielle de 2016 aux États-Unis. Or, dans ce cas, il s'agit d'une société privée qui, selon Facebook, ciblait essentiellement des pays d'Afrique subsaharienne. Sénégal, Togo, Mali, Nigeria, Angola, mais aussi Tunisie. Facebook rend public certains de ses faux contenus, notamment une caricature de Martin Fayoulou, candidat à la présidentielle en RDC, moqué au profit de son rival Félix Tshisekedi. En annonçant le bannissement d'Archimède et la suppression de tous ses faux contenus, Facebook, empêtré dans des scandales à répétition depuis 2 ans, tente une fois de plus de donner des gages de transparence.
Suite et fin donc d'une semaine d'actualité, il va falloir compter décidément, Gérard Courtois, sur les réseaux sociaux dans les élections, dans les vies politiques des pays, quels que soient les continents du monde.
Oui, ils ont fait depuis quelques années irruption. Ils occupent
pour le pire et pour le meilleur.
Pour le pire. Je cherche le meilleur.
Ouais, moi aussi, en le disant, en faisant cette remarque, je me demandais où était le meilleur. Pour le pire, pour l'instant.
Non, mais c'est aussi pour voilà, c'est aussi un facteur de mise en commun, de préoccupation, d'indignation, etc. Mais c'est aussi un facteur de mise en commun de fake news. Et en cela, c'est vraiment quelque chose qui... pour quelqu'un de ma génération, est totalement stupéfiant à quel point les vérités de fait, les vérités établies, les vérités vérifiées peuvent être contestées, mises en doute et balayées par des réseaux sociaux qui ouvrent leurs antennes, si je puis dire, à toutes les lubies, tous les complotismes, toutes les idéologies les plus
nauséabondes,
oui, ou dangereuses. Donc, il y a quelque chose d'assez troublant dans ce. Enfin, je n'aime pas, par exemple, l'expression infox qu'on emploie souvent en France, parce qu'elle laisserait penser qu'il y a de l'info. Non, il n'y a pas de l'info. C'est du mensonge, c'est de l'invention, c'est de la désinformation au sens plein du terme. Ce qui est plutôt, moi, ce qui m'a plutôt rassuré sur les, en tout cas à partir de l'exemple de l'élection présidentielle de 2017 en France, c'est que, je dirais pas forcément la même chose de l'élection présidentielle américaine un an plus tôt, ou quelques mois plus tôt, c'est que la télévision et le travail journalistique, on en a parlé tout à l'heure, les débats télévisés, le travail journalistique au sens large, ont été les moteurs du débat public et non pas les réseaux sociaux. Donc, mais le rapport de force va probablement s'équilibrer.
Gérard Courtois, terminons avec une de vos chroniques, la dernière du livre, c'est chronologiquement la dernière, elle date du 19 décembre 2018 et elle est intitulée 2019 à qui tout double, et là vous parlez d'Emmanuel Macron 6 mois plus tard, que diriez-vous? À qui tout double
sur la manière de sortir de la crise des gilets jaunes. C'est pas quitte, mais c'est pas double. et qui tout double sur l'enjeu du scrutin européen. Dans un cas comme dans l'autre, la question est posée de savoir quelle sera la capacité d'action réelle et la force politique et donc la capacité d'action du président de la République pour les 2 prochaines années. Je mets de côté la dernière année du mandat qui, comme on l'a déjà vu précédemment, est totalement surplombée par le scrutin suivant.
Merci Gérard Courtois, je recommande votre livre de chronique politique publié dans la collection de poche Tempus par les éditions Perrin.
Merci.
Ça s'intitule La fin d'un monde, chronique politique. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Nous nous retrouvons demain pour le magazine Idée. Là, ça sera un sujet qui va vous intéresser sans doute, Gérard Courtois. Nous reviendrons en effet sur la fin tragique du deuxième secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, mort avec 15 autres personnes dans le crash suspect pour le moins de son avion le 18 septembre 1961 en Zambie, alors qu'il devait négocier avec Moïse Tshombe, le chef indépendantiste du Katanga. Une bien étrange affaire. Nous serons en compagnie de Morin Picard, qui vient de publier une enquête précise sur ce crash et ses conséquences, où il est beaucoup question des mercenaires payés pour défendre le Katanga, riche de ses réserves de minerais. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI, bien sûr.